RCFM, Christina Loudzi, les experts.
Bonjour à tous et à tous, c'est Christina Loudzi. Merci d'être avec nous et d'être si fidèle à ce rendez-vous des experts. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et jusqu'à 10h30 avec notre expert pour une mission placée sous le signe de la sécurité numérique aujourd'hui. Pour ceux qui avaient encore des doutes sur les éventuelles utilisations frauduleuses des données que l'on émet de son plein gré en pâture sur Internet et les réseaux sociaux, l'affaire Cambridge Analytica qui a défrayé la chronique en ce début de printemps a transformé ces doutes en faits avérés, des faits d'une ampleur telle que l'action Facebook avait perdu près de 7% en bourse, soit la coquette somme de 30 milliards d'euros. Le sage adage biblique qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler devrait-il s'appliquer à nos actes sur le web? Tourner 7 fois ses doigts dans les poches avant de cliquer sur j'aime, de partager, de commenter ou d'y poster? Objet connecté, sommes-nous tous espionnés? C'est notre dossier du jour.
Les experts, 9h30, 10h30, Christina Loudzi.
Et pour en parler, je suis encore avec un expert. Et quel expert ? Bernard Benamou, ancien délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et aujourd'hui, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir. Alors Bernard, on va rentrer vite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la sécurité numérique. Près de 80% des Français possèdent un smartphone rempli de photos, d'applis, de GPS, mais aussi de capteurs et de micros qui travaillent à notre insu. Et on donnerait ainsi des infos sur notre façon de consommer, sur notre mode de vie. Alors ces données, est-ce qu'elles sont captées, oui ou non? Et par qui et pourquoi?
Oh, ça c'est une question très très large. Oui, ces données sont aujourd'hui non seulement captées, mais monétisées. C'est comme ça que l'on dit dans ces métiers.
Ah oui.
Et c'est effectivement l'objet de toutes les convoitises de la part des industriels et en particulier des publicitaires. Et c'est, je dirais, le cœur des débats aujourd'hui autour de la notion de surveillance des citoyens, des populations. Comme on peut le voir d'ailleurs en Chine, où la chose a pris une dimension encore plus inquiétante que dans les pays occidentaux.
On va y venir à la Chine, on va en parler effectivement, ça fait peur. Est-ce qu'on est sur écoute, entre guillemets, en permanence? Est-ce qu'on autorise justement à donner toutes ces informations? On est un petit peu acteur de cette divulgation quelque part.
Nous sommes acteurs, mais ce que l'on dit souvent, c'est que lorsque nous autorisons, et on le voit souvent lorsqu'on navigue sur Internet, lorsqu'on accepte que des données soient recueillies et qu'elles soient traitées, la plupart du temps, on ne lit pas les conditions.
Non, tout à fait.
Et d'ailleurs, si les citoyens devaient lire toutes les conditions générales, c'est comme ça qu'on les appelle, les conditions générales d'utilisation, ça prendrait en moyenne 90 jours par an. C'est-à-dire que...
On fait que ça, quoi.
Même... Voilà, exactement. Personne n'est à même de les lire en entier. Et effectivement, elles sont souvent écrites dans un jargon juridique que la plupart des citoyens ne comprendraient pas. Donc, de toute manière, le rapport que nous avons avec ces grandes sociétés qu'on nomme maintenant les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et quelques autres, ces rapports sont forcément biaisés, ou on dit asymétriques. C'est-à-dire que ils sont des rapports du faible étant nous, au fort, à savoir effectivement ces sociétés.
Tout à fait. Si je peux me permettre, il y a tout qui est fait pour duper l'utilisateur. Je pense notamment ce matin encore, la dernière fois, quand on se connecte avec notre téléphone, il y a un pop-up qui s'ouvre et il est écrit « Votre vie privée est respectée », mais bien sûr. Et si on clique sur le gros bouton « J'accepte », puisqu'on ne voit que celui-là, et non pas sur le tout petit lien qui est en dessous pour faire les réglages, et ben on accepte tout simplement d'être pisté par ce site.
Mais oui, c'est-à-dire que, en fait, au départ, les utilisateurs d'Internet, avant même le mobile, avant même effectivement que le smartphone ne se développe, ne se rendaient pas compte de l'usage qui pouvait être fait de ces données. Et ils pensaient que c'était juste pour, entre guillemets, envoyer des publicités ciblées. Or, en fait, on se rend compte aujourd'hui que ça permet d'établir un profil, c'est le nom d'ailleurs qu'on utilise dans ces métiers, on parle de profilage, ça permet d'établir un profil extraordinairement précis. Pour mémoire, par exemple, les sociétés qui gèrent ces immenses bases de données sur les utilisateurs, qu'on appelle des data brokers, des courtiers en données, ces sociétés gèrent parfois plusieurs milliers de paramètres par individu. Je répète, plusieurs milliers de paramètres sur chaque individu. Et donc, un confrère journaliste avait eu l'occasion d'écrire un article dans le Financial Times il y a quelques mois, où il disait... j'ai découvert dans ces bases de données, en étudiant mon profil tel qu'il était stocké, que j'étais considéré à risque pour une maladie rénale, et il disait, je ne le savais même pas. et ça s'est déclaré vrai.
Donc, par et en fait, c'était, pardon, mais je vous coupe, mais c'était en fonction de quoi? Des sites qui recherchaient, des sites médicaux, c'était quoi?
Voilà, il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement son comportement et effectivement le type d'activité, parce que vous le disiez au départ. La particularité du smartphone, c'est qu'il mesure votre déplacement avec le GPS, il mesure votre activité et peut même mesurer votre effort, vous savez, pour les coureurs qui ont des applications qui permettent de le faire. Et donc, on peut deviner, en fonction d'une modification de ce qu'on appelle les routines de comportement des gens, on peut voir s'ils ont modifié leur activité en raison d'un problème médical ou en raison d'un problème psychologique. On est capable de rentrer extraordinairement finement dans la vie intime des gens, simplement avec des données, sans même parler des réseaux sociaux, avec des données acquises par l'utilisation quotidienne normale du téléphone.
04 95 32 22 22, on parle aujourd'hui sécurité numérique. Si vous voulez réagir, témoigner, hein, vous continuez à nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux. Comme Marie-Jeanne qui nous dit, en fait, nos données numériques sont utilisées de manière totalement opaque. Il y a vraiment de quoi devenir parano. Oui, un peu.
Oui, mais disons, le but, c'est pas de décourager ceux qui nous écoutent en pensant que les choses sont inévitables. Je crois que nous, Européens, sommes déjà beaucoup, beaucoup plus soucieux et sourcilleux sur l'usage de ces données avec un règlement européen qui est passé au printemps dernier. Je pense sincèrement qu'il nous faut être conscients des risques et donc, en particulier en termes d'éducation par rapport aux plus jeunes générations, être capable de leur apprendre que lorsque l'on écrit sur un réseau social ou sur Internet de manière générale, c'est comme si effectivement, on le disait, à des gens que l'on ne connaît pas de manière globale. C'est-à-dire, ce qui est sur une page Facebook, c'est comme si c'était sur le web, et ce que l'on écrit dans un mail, voire même dans des messageries, c'est comme si effectivement on le publiait et on le rendait visible à tous. Cette notion-là, déjà, beaucoup de gens ne l'ont pas, et je pense que ce serait très important que les gens comprennent que la notion effectivement de groupe privé ou de groupe, de petit groupe avec lequel on échange est une chose très 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 difficile.
C'est un écran de fumée en fait.
Oui, exactement.
On va prendre Facebook puisqu'on en parle. Tenez, on accepte sans savoir entre guillemets, puisque comme vous le disiez, on lit pas les 120 pages de conditions générales d'utilisation, n'est-ce pas? Ou à la page 52, ligne 30, écrit en tout petit, on accepte ces autorisations de transmettre les données. Et en fait, on accepte que soient collectés nos rendez-vous, notre voix, nos appels, mais aussi la mémoire de notre téléphone. Ça les autorise à accéder à ces petits capteurs qui sont dans notre téléphone et à récupérer.
Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il y a des applications qui le font avec un accord explicite de l'utilisateur. Il y a celles qui l'ont fait de façon sauvage et sans que l'utilisateur en ait conscience. Et dans ce cas-là, elles font l'objet de poursuites. Ça s'est produit d'ailleurs à plusieurs reprises aux États-Unis et même en Europe. Il y a celles qui le font. Et où les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Prenons un exemple. Vous citiez Cambridge Analytica, donc, qui a été impliqué dans un scandale massif. C'était au départ une application, un jeu.
Qui demandait aux gens des
questions et qui demandait s'ils acceptaient que l'ensemble de leurs contacts soit transmis de manière à pouvoir les contacter. Les gens ne se rendaient pas compte qu'en le faisant, ils permettaient effectivement d'étendre la toile de recherche et de stockage de l'ensemble des personnes et effectivement ils l'ont fait, comme dirait un certain cycliste, à leur insu, de leur plein gré, et ce faisant ils ont permis une manipulation électorale à très très grande échelle.
Oui.
Donc vous voyez, c'est très difficile pour les gens qui au départ croyaient participer à un jeu tout à fait innocent de se rendre compte qu'ils participaient à une manœuvre d'influence et d'ingérence dans des processus électoraux.
On a eu la preuve encore cet été, hein, cette application où tout le monde se prenait en photo pour voir comment il serait dans 40 ans pour se virer. Mm-hmm. Et au final, on a appris que c'était une société en Russie. Et donc, on a donné des informations. Enfin, on a donné, pas moi, hein, parce que je ne l'ai pas fait, mais on a donné des informations à la Russie. Et on ne sait pas ce que demain, ils pourront en faire, en fait.
Ah, mais c'est évident. Et c'est pour ça, il y a de plus en plus, effectivement, de cas. Et c'est pour ça que les scandales auxquels on a assisté depuis Snowden jusqu'à maintenant, effectivement, des scandales avec des entreprises russes comme Cambridge Analytica a été aidé par des entreprises russes, par définition, ça aide à prendre conscience des choses et ça fait partie du cheminement que nous devrons tous avoir pour justement être en mesure d'établir des limites qu'au départ, on n'a pas établies par rapport à ces sociétés. Et je pense qu'on en est qu'au tout début. Je parlais du règlement européen. Je pense qu'il faudra le faire évoluer au fur et à mesure du temps, parce que les risques nouveaux, les réalités nouvelles se crée tous les jours.
Mais ça arrive.
Ces applications.
Mais ça arrive tellement vite. Pardon, mais ça arrive tellement vite qu'il faudrait qu'il évolue en permanence, c'est-à-dire tous les jours, parce que tous les jours il y a quelque chose qui sort en fait.
Oui, alors évidemment, en théorie, il faudrait faire ça, mais dans la réalité, je pense qu'il y aura des mesures qui devront être prises, comme on dit, en amont, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que certains types de captation de données ne puissent pas être effectués. Et je pense que lorsqu'il sera question au fur et à mesure, je vous parlais tout à l'heure de ces courtiers en données, ces data brokers, de plus en plus de juristes et de régulateurs pensent que leur métier devrait être sévèrement limité pour éviter effectivement la dispersion internationale et non contrôlée des données, et même des gens très très, je dirais, positifs par rapport aux technologies, qui souhaitent développer les technologies, se rendent compte qu'on ne peut plus rester dans cette espèce de Far West de régulation ou de manque de régulation par rapport aux données. Et donc je pense que même l'industrie aujourd'hui se rend compte que c'est dangereux de risquer un effondrement lié à des crises et à des scandales successifs.
04 95 32 22 22 hein, pour réagir sur cette émission, comme l'a fait Dominique. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à CFM, bonjour à votre invité. Je ne sais pas s'il est permis de vous poser une question un peu, si vous permettez, un peu naïve. Est-ce que le smartphone n'infantilise pas un peu le citoyen, la société, en quelque sorte?
Ouh, c'est une vaste question, monsieur. En tout cas, merci effectivement de la poser ainsi. Oui, je crois que le smartphone, parce qu'il est dans notre intimité quasiment 24 heures sur 24, et parce qu'il est aujourd'hui utilisé pour créer une forme d'addiction, puisqu'en fait, des sociétés comme Facebook ont des divisions entières de leur personnel dont le métier est de créer effectivement l'addiction pour que les gens regardent chacune des notifications, interagissent le plus souvent possible. Le terme qu'ils emploient dans ces métiers, c'est le terme d'engagement. Il faut que les gens soient le plus engagés possible par rapport au service. Donc oui, cette addiction, comme toute addiction, est infantilisante. Est-ce que c'est une nécessité que ce genre d'outil soit infantilisant et soit d'une certaine manière addictif? Je pense que non.
On parle demain des addictions, de la nomophobie. On va en parler demain.
Oui. Je vais pas dévoiler les futurs.
Vous spoilez.
En tout cas, sincèrement, je crois que ce que nous devons faire, comme on l'a fait dans le passé pour beaucoup d'autres industries, c'est faire en sorte que les citoyens aient un droit de regard en permanence, un droit de regard démocratique sur effectivement l'usage et l'évolution de ces technologies. Il n'y a pas de... Dans nos missions, allô ?
Oui ?
On dit qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Je crois que nous ne devons pas être déterminés par ces technologies et que nous devons nous-mêmes déterminer leur évolution.
Oui, ça répond à votre question, Dominique.
Merci, merci bien, merci.
Merci à vous, de nous suivre, à très bientôt.
Au revoir.
Justement, une réaction à ce que vous disiez, hein. Marilyn nous dit « Je me suis aperçue que quelqu'un avait posté une photo de mes enfants, où mes enfants étaient dessus, alors que je suis anti-réseaux sociaux. Quels sont mes droits ?»
Alors là, lorsqu'il est question des enfants, la question est très simple. C'est-à-dire que là, on peut demander un droit de retrait. Enfin, on a la possibilité d'exiger le retrait de ces photos, puisque là, on a une atteinte caractérisée à la vie privée. Et, et là-dessus, un signalement à la CNIL et voire même à la justice, peut effectivement intervenir. Mais dans ce genre de cas, ce genre de cas étant le plus simple, la demande de retrait auprès de la plateforme, dans ce cas-là Facebook apparemment, serait relativement facile parce qu'effectivement, il n'y aura pas de débat.
Il n'y aura pas de débat, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je ne veux pas la stresser, Marine, si vous nous écoutez, je ne veux pas du tout vous stresser, mais ce que je veux dire, c'est que quand on sait que toutes les données sont conservées, cette photo qui a été postée à son insu, elle sera conservée quand même par la plateforme.
Elle risque d'être conservée, l'essentiel, j'imagine, pour cette personne, c'est de faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus sur la plateforme. Et donc, le fait, effectivement, d'exiger le retrait, c'est déjà un premier pas. Est-ce qu'on peut être certain, c'est la question que vous semblez poser, est-ce qu'on peut être certain que les plateformes ne conservent pas, par devers elles, comme on dit, des informations au-delà de leur effacement de la plateforme, en tout cas de leur visibilité? Ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, et je vais vous dire même mieux, puisque sans vouloir cultiver la paranoïa, puisqu'on en parlait au départ, ce qu'on a découvert lors des auditions au Congrès de Mark Zuckerberg, c'était par exemple que Facebook générait ce qu'on appelle des profils fantômes, c'est-à-dire des profils d'utilisateurs qui ne sont pas inscrits sur Facebook, mais qui interagissent avec des gens sur Facebook. Et donc, on avait des profils extrêmement précis, y compris sur des données médicales, de gens qui ne s'étaient jamais inscrits sur Facebook. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la régulation n'en est qu'à ses débuts. Cette notion de profil fantôme, déjà en elle-même, pour nous, Européens, elle est effrayante. Je pense que ces plateformes ne pourront pas continuer à gérer, parce que on dit que Facebook, c'est 1,4 milliard, je crois, d'utilisateurs. Ouais. Par définition, je pense qu'il nous faudra agir, voire même, comme le demande par exemple une candidate à la présidence des États-Unis, Madame Elizabeth Warren, pour pourquoi pas démanteler ces sociétés pour éviter qu'elles ne rassemblent au fur et à mesure, alors vous savez que Facebook a racheté Instagram, WhatsApp, qu'elles rassemblent au fur et à mesure quasiment toutes les données de tous les types d'activités possibles des personnes sur leur smartphone. Et donc oui, je pense que on en est qu'au début, et je pense qu'il est important justement que les citoyens décident des suites qui pourront être données à ce genre d'action au niveau français, au niveau européen, et peut-être même au-delà encore.
Tout à fait. 04 95 32 22 22 si vous souhaitez réagir à notre émission sur la sécurité numérique.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
j'adore. Il m'ouvrit ni Zobrijunir les magnifiques voix d'Alain Bernardini et Stéphane Mangiantini qu'on salue, hein, qui nous écoute. Il m'ouvrit ni qui sort un nouvel album, ça sera le 18 octobre pour Twincore. Il est déjà en précommande sur leur site www.imouvrini.com.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et oui, on parle sécurité numérique aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur les réseaux sociaux. Et pour cause, hein, tout le monde est concerné, hein, pour le coup. Donc, Bernard Benamou, vous êtes avec nous ce matin. Vous êtes notre expert. Vous êtes ancien délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Alors, on va poursuivre, hein, notre débat sur la sécurité numérique. J'ai vu une fois dans un reportage quand on faisait une recherche sur un site, notamment avec notre téléphone, il y avait des centaines de connexions qui s'établissaient, et quand l'expert analysait ces connexions, eh bien il y avait des sociétés de télémarketing, par exemple aux États-Unis, qui pouvaient se connecter à notre téléphone. Quel type de données ils peuvent récupérer sur nous?
En fait, le principe de ces données, c'est que lorsque vous connectez à un site, la plupart du temps, il recueille les informations liées à votre navigation, c'est-à-dire ce que vous regardez, ce avec quoi vous interagissez. Vous parliez tout à l'heure des likes sur Facebook, ça aussi, effectivement, ça génère les connexions. Et après, les sociétés de télémarketing, enfin de marketing Internet que vous évoquez, peuvent récupérer plus ou moins d'informations sur votre configuration, le téléphone que vous utilisez. Parfois, effectivement, on en parlait tout à l'heure, des informations liées à votre géolocalisation, liées à votre activité. Et c'est quelque chose qui est quotidien et multi-quotidien, puisque la plupart des Français se connectent plusieurs heures par jour sur leur smartphone. Et on peut, à partir de ces données, recréer, comme on en parlait, des profils d'activité, des types d'intérêts sur l'ensemble des sujets, santé, éducation, loisirs, culture, etc., etc. Et au fur et à mesure, on va étayer ces profils, et comme on en parlait, donc de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de paramètres sur chacun des types d'activités de la personne. Donc c'est très difficile de décrire par le détail chacune des informations, mais en tout cas, au fur et à mesure, même des choses qui paraissent tout à fait anodines, comme une recherche effectivement sur Internet, peuvent être extraordinairement valorisables auprès des publicitaires, parce que ça révèle des choses
quelque chose de nous, en fait.
Bien sûr.
Marie-Jo nous dit, j'écoute votre émission, je refuse toute autorisation qui me sont demandées, mais pour lire un article non Press People, si on refuse, on ne peut pas lire intégralement l'article, ça incite à autoriser les conditions. Bah oui, quelque part.
Absolument. Et c'est ce rapport qui est biaisé, c'est-à-dire que vous avez des sites, puisque là il est question effectivement de lire l'intégralité, il y a des sites qui sont totalement bloqués.
C'est ça.
Lorsqu'on n'effectue pas effectivement l'acceptation. Donc c'est sans parler même de sites, par exemple aux États-Unis, qui ne permettent pas l'accès à des utilisateurs européens, en raison même du règlement européen sur les données, parce qu'ils ne sont pas conformes en termes de gestion de leurs données. Donc effectivement, c'est presque impossible aujourd'hui de ne pas laisser de traces sur Internet. Même les plus pointus experts ont du mal à ne pas laisser de traces aujourd'hui.
C'est flippant quand même, hein. En plus, je voyais en préparant cette émission que mon mois numérique pouvait être vendu jusqu'à 500 €. Donc quelque part, si tout est gratuit sur Internet, c'est que c'est un peu nous le produit, en fait.
C'est nous le produit, oui. C'est une phrase qui est devenue classique maintenant sur Internet.
Oui, oh merci, je sais. J'ai rien inventé.
Non, au contraire, c'est-à-dire, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire dire, lorsqu'une plateforme comme Facebook ou un service comme Google ou d'autres, c'est vrai de beaucoup d'autres, sont gratuits, ils s'équilibrent d'un point de vue financier et d'un point de vue économique en revendant les données de leurs utilisateurs. Et c'est des données, comme vous le disiez, par exemple dans le domaine automobile, où les profils sont extrêmement valorisés, puisque les automobiles sont, je veux dire, un des produits commerciaux les plus chers que peuvent acheter les ménages. Par définition, effectivement, on voit bien l'intérêt pour ces sociétés. Et au départ, les gens pensaient que c'était anodin. Et il a fallu, au fur et à mesure, effectivement, des scandales, des révélations, pour qu'on se rende compte que ce n'est pas que de la consommation dont il est question, mais il est question de manipulation idéologique, de manipulation électorale et autres. Et donc, on se rend compte que ce n'est pas juste pour que l'on vous affiche une publicité pour la voiture qui vient de sortir chez tel ou tel constructeur, mais c'est bien au-delà. Et donc, cette dimension-là sur le fait qu'il ne s'agissait pas que de commerce. C'est quelque chose qui commence à peine à émerger dans l'opinion publique. Et ça, c'est important, effectivement, qu'on en parle. Et c'est pour ça que je suis ravi qu'on en parle aujourd'hui.
Mais 500 euros, mon profil numérique. Mais il est vendu à qui? Il est vendu en masse, je dirais? Ou est-ce que, par exemple, si demain, une personne lambda cherche à nous nuire, est-ce qu'il peut éventuellement s'orienter vers ces sociétés et dire « je veux le profil de telle personne pour lui faire du chantage
?» Non, alors c'est très difficile de répondre à ça. Parce que, par définition, vous avez des acteurs qu'on appelle légitimes, c'est-à-dire, par exemple, des constructeurs, je vous parlais d'automobiles, ou alors, effectivement, des assureurs, des banques, ou toutes sortes de commerces, qui peuvent vouloir, effectivement, avoir accès à des profils pour pouvoir, effectivement, proposer tel ou tel de leurs services ou de leurs produits. Ça, c'est, je dirais, l'essentiel des cas. Mais que des sociétés apparaissent comme légitimes, mais que derrière, elles aient, effectivement, une activité qui ne soit pas légitime, ça se produit de plus en plus. Je vous donne un autre exemple sur les smartphones. Vous avez des jeux qui ont été créés uniquement pour recueillir les données des utilisateurs et pour après les revendre. Est-ce que se crée un marché noir des données personnelles auxquelles peuvent accéder des organisations mafieuses, des systèmes effectivement de sectaires ou de manipulation politique? Ça, c'est tout à fait possible. Ce que l'on citait tout à l'heure pour Cambridge Analytica, c'était une société qui faisait écran, une sorte de faunée, pour après, effectivement, être utilisé à des fins politiques. Et au départ, les utilisateurs n'avaient aucune idée, mais vraiment.
Oui, non, bien sûr, de ce qu'ils autorisaient à faire.
De ce que se permettraient de faire les sociétés en question. Donc, répondre à votre question est difficile, mais je pense que il nous faut une attitude de prudence par défaut, pour éviter, effectivement, que des acteurs illicites, voire dangereux, voire même terroristes, parfois. Ben oui. Ne puisse se saisir de ces données. Et c'est une possibilité aujourd'hui, c'est clair.
Et quels sont les risques potentiels? On pense bien sûr à l'usurpation d'identité, mais auxquels on s'expose aujourd'hui lors de la transmission de toutes ces données?
Je dirais qu'il y a différents types de risques. Il y a des risques, effectivement, sur l'usage ou le mésusage. Mais l'usage criminel de la donnée est, je dirais, un cas un peu à part, puisque... Les gens qui vont utiliser vos données pour...
On va parler de ces gens qui vont utiliser les données, mais le cas le plus... Je coupe un peu parce qu'on va passer au journal, donc du coup, mais c'est l'usurpation d'identité, c'est quoi?
L'usurpation d'identité, c'est une chose. Et effectivement, on a vu ces dernières années le nombre d'utilisations frauduleuses, par exemple, des données, voire même des données bancaires, qui a explosé. Ça, c'est une chose. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, c'est l'utilisation à des fins politique.
Bon, ça va être la seconde partie de notre émission.
De ces données.
Ok, merci Bernard Benamou. On vous retrouve tout de suite après la météo et le journal.
Une question docteur Lemaire, médecin esthétique, partenaire de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. À partir de 50 ans, comment lutter contre les signes du vieillissement?
En cabinet médical, nous associons plusieurs techniques pour une action anti-âge globale. Une approche dont Filorga s'est inspirée pour développer Global Repair, des crèmes anti-âge multi-intensives.
Et ça marche?
Oui, cela a été testé sous contrôle médical. Avec la crème Global Repair, la peau paraît 5 ans plus jeune.
Global Repair, jugé plus efficace qu'un anti-âge classique par 76% des femmes. Détails de l'étude sur filorga.com.
Pour la santé et la prévoyance, je fais confiance à la première mutuelle de Corse.
Moi aussi, je suis à la mutuelle de la Corse. Comme ils connaissent bien les professionnels indépendants, ils me conseillent selon mes besoins.
Tiers payant généralisé, frais d'accompagnant en cas d'hospitalisation, téléconsultation médicale et maintien de mes revenus.
Et avec la mutuelle de la Corse, en santé comme en prévoyance, on profite des avantages Loi Madeleine.
Proximité,
conseil,
disponibilité,
ça c'est un vrai numéro 1.
Mutuale Diego Urtica, in prima salute. Plus de renseignements sur mutuelledelacorse.com.
La météo avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
Et on jette un coup d'œil du côté du ciel. Des orages sont possibles aujourd'hui en début de journée sur la Castaniche ainsi que sur l'ouest du département et la région bastiaise. L'activité orageuse s'estompe rapidement. Le ciel se dégage peu à peu en cours de journée. Vent de nord à nord-est, localement assez fort. Rafale atteignant 65 km/h l'après-midi jusqu'en début de soirée. Température maximale voisine de 22 à 25 degrés et 18 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec cette histoire résolue à Porto-Vecchio, il y a une petite semaine, des coups de feu avaient été entendus dans la nuit au niveau du rond-point des quatre chemins. Le matin, les gendarmes avaient retrouvé des douilles sur place, finalement. Après exploitation des caméras de vidéosurveillance et de la téléphonie, deux personnes ont été interpellées. Une, c'est un commerçant qui s'est senti menacé par la présence d'un homme en voiture alors qu'il avait sur lui le contenu de la caisse de son établissement. Il a sorti une arme de poing, il a tiré en l'air. L'automobiliste et son passager ont pris la fuite. Ils sont revenus avec un pistolet d'alarme. Ils ont tiré en l'air également. Interpellé et jugé, le commerçant a écopé d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis, interdiction de posséder une arme durant 5 ans. L'automobiliste et son ami, qui possédait un taser, seront jugés, eux, en début d'année prochaine. C'est pour dénoncer un manque de moyens humains, mais aussi le mauvais état du parc locatif que les agents STC de l'Office de l'Habitat de la Corse sont en grève depuis lundi. Ils estiment que le protocole d'accord qui a été signé lors du dernier conflit en novembre dernier n'est pas respecté. Hier, les agents ont donc perturbé la tenue de la commission d'attribution des logements sociaux pour faire entendre leurs revendications. Le STC indique que dans un parc de près de 3000 logements, nombreux sont les appartements vacants alors que l'office reçoit des milliers de demandes. Pour le syndicat, les moyens alloués sont loin, très loin d'être à la hauteur de l'engagement pris pour la rénovation des appartements. Les agents STC demandent à rencontrer le président de l'exécutif. En attendant, le mouvement de grève se poursuit. D'autres actions pourraient être menées. En sport, le GFCA Volley reprend du service. L'équipe ajaxienne s'est remise en route. On est à 10 jours de la reprise du championnat de Ligue A. Hier au Paladino, le club a ouvert la séance d'entraînement au public de façon à présenter les nouvelles recrues. Il y a eu de nombreux départs à l'intersaison. L'effectif a été renouvelé à 80%. Des jeunes joueurs principalement sont arrivés. Le club repart avec un budget à la baisse. 1 100 000 contre 1 400 000 euros la saison dernière. Le club du coup a dû revoir ses ambitions à la baisse. L'objectif affiché, c'est le maintien. Premier match, premier test pour les volleyeurs d'Ajaccio. Ce sera le 12 octobre avec un déplacement à Narbonne.
Merci Didier. Nous on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Patrick Habert, à Pau, nous dit pourquoi.
J'ai deux enfants qui portent des lunettes. L'aîné, qui a 14 ans, a pu bénéficier des vrais conseils avisés par rapport à son visage, par rapport à ce qui lui allait, ce qui lui allait pas. Ils ne mentent pas, quoi. Et pour le plus jeune, il y avait un choix sympa, des lunettes vraiment bien, qui changent un petit peu de ce que j'ai pu voir ailleurs. Et mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense, qui tombait très bien, puisque c'était le moment de la rentrée, qu'il y avait beaucoup de dépenses, donc ça tombait à pic.
Stéphane Pédaraguet, opticien Optique 2000 de Monsieur Habert, à Pau.
Que notre client reparte avec le sourire, partager avec lui notre passion pour les produits, la technique, lui apporter un vrai service tout en respectant son budget. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers.
Alors Monsieur Habert, content d'Optique 2000 ?
Complètement. Et en plus, il gère tout pour moi, donc c'est parfait.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositif médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Une question Docteur Lemaire, médecin esthétique, partenaire de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. À partir de 50 ans, comment lutter contre les signes du vieillissement ?
En cabinet médical, nous associons plusieurs techniques pour une action anti-âge globale. Une approche dont Philorga s'est inspirée pour développer Global Repair, des crèmes anti-âge multi-intensives.
Et ça marche ?
Oui, cela a été testé sous contrôle médical. Avec la crème Global Repair, la peau paraît 5 ans plus jeune.
Global Repair, jugé plus efficace qu'un anti-âge classique par 76% des femmes. Détails de l'étude sur philorga.com.
France Bleu RCFM.
RCFM, Christine Aloudzi. Les experts.
Et bonjour et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On parle aujourd'hui dans les experts de sécurité numérique. Le sage biblique qui dit de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler devrait-il s'appliquer à nos actes sur le web? Tourner 7 fois ses doigts dans ses poches avant de cliquer sur j'aime, de partager, de commenter ou d'y poster. Objets connectés, sommes-nous tous espionnés? C'est notre dossier du jour.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Et pour cela, je suis en compagnie de Bernard Benhamou, ancien délégué aux usages de l'Internet au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, aujourd'hui secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Alors Bernard, on parlait juste avant la pause des risques potentiels auxquels on s'exposait à la transmission de toutes ces données. Lorsqu'on voit l'exemple de la Chine, où le gouvernement utilise la captation de données pour le crédit social, pour valider le caractère correct d'un citoyen, ça fait quand même peur sur les risques que nous prenons au long terme.
Oui, alors l'exemple chinois est particulièrement révélateur et je pense qu'on doit, y réfléchir et surtout faire en sorte qu'une situation de ce genre ne se produise jamais de ce côté-ci, je dirais, du globe. Et effectivement, vous citez le fait que en Chine, chaque personne sera notée, puisque ça commence à être déployé, chaque personne sera notée et en fonction de cette note, elle pourrait effectivement être empêchée, et ça commence déjà à exister pour des dizaines de millions de citoyens chinois, elle peut être empêchée d'utiliser le train ou l'avion, d'avoir accès à des crédits bancaires, d'avoir même des promotions dans le cadre de leur travail. Donc par définition, on est en train d'établir une surveillance sur l'activité, sur le comportement de chacun, avec pour but de faire en sorte que les individus ne puissent plus avoir quelque déviance que ce soit, ni d'un point de vue idéologique, ni d'un point de vue effectivement de comportement. C'est une forme de surveillance particulièrement inquiétante, et sachant en plus qu'en Chine existe un service qui rassemble un peu ce que nous connaissons avec Facebook, WhatsApp, Twitter et l'ensemble des services de paiement, qui s'appelle WeChat, qui est une espèce d'application énorme utilisée par des centaines de millions de Chinois. Donc par définition, nous, qui sommes sensibles justement au respect des libertés individuelles, des libertés des citoyens, on doit évidemment s'interroger sur les dérives auxquelles nous avons assisté avec Facebook, Twitter, dérives de discours de haine, dérives d'attaques et de cyberharcèlement. C'est toutes ces choses, et avec en plus derrière en toile de fond l'idée que ça peut être utilisé, comme on en parlait, à des fins politiques. Et c'est peut-être ça, peut-être le plus important ou le plus inquiétant pour nos démocraties, puisqu'on voit que nos démocraties sont vulnérables face à l'usage de ces technologies à des fins politiques qui peuvent être parfois extrêmement dangereuses.
On pourrait presque parler de manipulation de masse, d'un capitalisme de surveillance quelque part.
Ben c'est le terme que l'on emploie désormais, effectivement. C'est le titre même du livre qu'a écrit une universitaire américaine, Shoshana Zuboff. L'idée du capitalisme de surveillance, d'un capitalisme qui serait basé sur la surveillance quotidienne et à chaque instant des individus et qui se nourrirait, entre guillemets, de cette surveillance avec tous les risques que l'on peut imaginer. Mais je le répète, là encore, rien n'est écrit. C'est-à-dire que c'est le risque tel qu'il existe aujourd'hui. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y trouver des solutions si, justement, les citoyens sont conscients. Comme on a pu le voir par le passé, il y a eu de nombreuses technologies qui pouvaient devenir dangereuses si on ne les maîtrisait pas, si on ne les encadrait pas. Je crois effectivement que c'est désormais l'un des enjeux pour les citoyens que de se saisir et de saisir leurs représentants, de saisir les politiques pour éviter que ça ne se produise ici, de ce côté-ci, en Europe et dans l'ensemble des pays proches.
C'est une volonté de nos élus aujourd'hui que ça ne se reproduise, enfin que cet exemple chinois ne se reproduise pas ici.
Ça commence. Je dirais que voyez, vous citiez le fait que je m'occupe aujourd'hui d'un institut qui est le questionnement est autour de la souveraineté numérique. Je voyais que lorsque nous avons créé cet institut, c'était en 2015, il y a 4 ans, le terme même de souveraineté numérique était quasiment inconnu du grand public. Et aujourd'hui, on a des politiques qui citent régulièrement, par rapport au GAFA, par rapport à la fiscalité, par rapport à ces sociétés, qui citent régulièrement ce sujet. Et on a même une commission sénatoriale qui s'est créée il y a quelques mois pour étudier les problèmes de souveraineté numérique en France et en Europe. Donc par définition, je crois que au fur et à mesure, il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai que face à des sociétés qui, comme vous le disiez tout à l'heure, évoluent extraordinairement vite, il faut une véritable culture de ces questions, une culture technologique, une culture politique de ces questions. Et c'est vrai que là-dessus, il y a encore évidemment un travail important d'éducation, de sensibilisation et des élus, et peut-être aussi et peut-être surtout des citoyens.
Vous parliez d'éducation numérique, on parlera tout à l'heure des jeunes générations, mais finalement c'est une génération qui est née avec tout ça, donc ils ont cette éducation numérique, mais les plus vulnérables, ce ne seraient pas les seniors ?
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je vais vous dire pourquoi.
Allez-y. Non, mais je dis, les seniors, ils sont pas habitués à ça, ils sont pas nés avec les ordis, avec les téléphones à la main, et du coup,
Alors, c'est vrai effectivement qu'il y a un déficit parfois de connaissances techniques, mais le risque que vous évoquiez pour ces générations que l'on appelle Y ou Z, les plus récentes par rapport aux technologies, c'est que souvent elles ne se posent pas de questions. Elles utilisent ces technologies,
elles les considèrent
comme un fait naturel, entre guillemets, comme une création de la nature, alors que ce n'est pas une création de la nature, c'est une création des humains,
tout à fait,
avec parfois effectivement des objectifs, des intentions qui ne sont pas toujours effectivement positives, on en a parlé. Et donc, je crois que il doit y avoir un échange générationnel entre ceux qui se posent des questions sur les sources d'information, sur les fake news, par exemple, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et effectivement ceux qui ont cette maîtrise technologique. Je crois que l'échange doit avoir lieu dans les deux sens.
Oui, tout à fait.
Et c'est important. Et vous voyez, je ne crois pas que parce qu'un jeune utilise Facebook, il soit numériquement forcément cultivé, entre guillemets.
Non, mais il y a vraiment une éducation numérique à faire, on est
absolument
d'accord.
Absolument, il y a un besoin de maîtrise de ces outils, mais il y a surtout un besoin de l'esprit critique, par rapport à l'information, par rapport à ce qui est fait de l'information. Et ça, cet esprit critique, je crois que ça nous concerne tous, toutes générations confondues.
Et surtout et les parents, que, hein, parce que absolument. Quand on laisse inscrire un enfant sur Facebook ou sur Instagram, il faut être conscient des risques qu'il prend. On fait cette émission absolument. Aussi pour ça, ce matin.
Absolument, et c'est vrai que voir ce qui parfois nous effraie, des parents utiliser le smartphone ou la tablette comme un substitut à la nounou pour que l'enfant reste calme, et parfois voir des très jeunes enfants de 2 ans, 3 ans, passer des heures entières sur ces outils, ça peut avoir quelque chose effectivement d'inquiétant. Et je crois que...
On va faire une émission normal. Là-dessus, d'ailleurs. Vous spoilez toutes mes émissions, Bernard.
Non.
Non, mais on parlait tout à l'heure de Cambridge Analytica. Je voudrais qu'on oui. revienne sur cette oui. affaire. Hein, deux mots. Pour rappel, c'était une société de marketing politique qui ne s'était pas contentée d'usurper des données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Elle avait aussi établi un profilage vestimentaire. Et c'était Christopher Wiley, le lanceur d'alerte de l'affaire, justement, Cambridge Analytica, qui avait dévoilé ce nouveau plan des stratégies mises en place pour favoriser notamment l'élection de Donald Trump. Et c'était lors d'une conférence organisée en Grande-Bretagne par le site web de l'industrie de la mode, hein, The Business of Fashion, que l'ex-salarié s'était étendu sur les techniques qui avaient été utilisées par son ancien employeur. Et il avait expliqué que les goûts vestimentaires étaient un critère clé pour Cambridge Analytica, dont la tâche consistait à établir et vendre des profils d'électeurs tiré de Facebook. Et donc on s'aperçoit que les données vestimentaires des utilisateurs avaient été incluses dans l'algorithme et que pour ce faire, il y avait une matrice qui avait été mise au point pour utiliser les corrélations entre plusieurs slogans de marque. Il y avait Nike, il y avait Armani, il y avait Louis Vuitton, je crois aussi. Et que 5 traits de personnalité comme l'ouverture, la conscience, l'extravagance, la gentillesse ou le dévouement avaient été également définis. Et il était apparu après cette étude que ceux par exemple qui portaient Wrangler, qui est une marque particulièrement prisée des électeurs conservateurs, étaient donc plus susceptibles de voter pour le candidat Trump. Est-ce que on peut dire que c'est ça qui a fait élire Donald Trump quand on sait que son élection s'est jouée à 90 000 voix? Enfin, un peu de politique.
Oui, alors, alors ceux qui disent qu'on n'est pas certain de l'impact qu'a pu avoir Cambridge Analytica sur les élections ne connaissent pas bien le fonctionnement des réseaux et des sociétés.
Non, mais c'est pour ça que je vous dis 90 000 voix.
90 000 voix à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'électeurs dans le cadre du corps électoral américain, c'est, comme on dit dans ces métiers, c'est l'épaisseur du trait, c'est-à-dire c'est rien.
Oui, c'est rien.
Et influencer quelques dizaines quelques dizaines de milliers d'électeurs dans ce cas-là à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, c'est relativement simple. Vous le disiez, on est capable de recueillir des données qui apparaissent totalement anodines au départ, les choix vestimentaires. On pourrait parler même des choix alimentaires. Vous citiez la marque Wrangler, qui est préférée des électeurs conservateurs. La soupe Campbell, je ne sais pas si vous voyez cette soupe avec la boîte rouge et blanche, a aussi été historiquement considérée comme la marque consommée par les Républicains en grande majorité. Donc, par définition, des choses qui paraissent totalement séparées du monde politique peuvent nous y relancer et peuvent effectivement y être rattachées. Donc oui, il y a ce risque-là. Et est-ce que aujourd'hui on est capable, au travers des réseaux sociaux, d'influencer les comportements dans ces domaines? La réponse est simple et oui. Et c'est très simple parce qu'on joue, dans ces cas-là, sur des mécanismes de groupe, des mécanismes tribaux, c'est comme ça qu'on dit, tribalisme sur Internet, et ne pas croire que les messages que pouvait envoyer Cambridge Analytica étaient uniquement voter Trump, ça aurait été beaucoup trop simple.
Bien sûr.
Ce que faisait Cambridge Analytica,
c'est ça qui est pervers en fait.
Voilà, c'était par exemple de démobiliser l'électorat afro-américain parce qu'on le sait traditionnellement plutôt démocrate. Et donc c'était
affaiblir en fait le vote démocrate et pas forcément renforcer le vote conservateur.
Hein. Exactement, et c'est pour ça que c'est extraordinairement compliqué parce que vous voyez, c'était dire vous ne serez pas bien représenté par Hillary Clinton, qui était à l'époque donc le challenger par rapport à l'élection, vous ne serez pas bien représenté par Hillary Clinton, donc pourquoi voter?
Oui, c'est ça.
Vous voyez, c'était des messages de ce genre, et donc il faut comprendre que jouer sur les peurs, jouer sur les appartenances tribales, religieuses, ethnique peut être fait de manière très subtile et effectivement à l'échelle d'une population tout entière, vous avez toujours une frange qui va réagir par rapport à cette tentation effectivement de repli, voire de haine, et effectivement être capable, dans la plupart des démocraties, on sait très bien qu'on a des résultats qui sont souvent assez partagés, c'est jamais du 90-10, c'est toujours du 52-55% d'un côté, 48-45% de l'autre. Et donc ces quelques pourcentages qui font le vote, et comme vous le disiez, c'est 90 000 voix qui ont permis donc à Trump d'être élu, alors même qu'aux États-Unis, Hillary Clinton avait 2 millions et quelques de voix d'avance sur l'ensemble du territoire. C'est 90 000 voix, c'est relativement facile à chercher, et c'est ce qui a créé effectivement le scandale quand on a eu à connaître le comportement de la société Cambridge Analytica et ses liens avec l'équipe de campagne de Trump. C'est là où on s'est rendu compte effectivement à quel point nos démocraties étaient globalement vulnérables.
Ben oui, et pour le coup, ça aurait coûté 6 millions de dollars à Donald Trump, bon, une bagatelle pour lui, hein, qui est multimilliardaire. Hein? On sait que, notamment que la maison mère de Cambridge Analytica aurait influencé plus de 33 pays différents, dans le Brésil et en Europe, l'Italie et la Grande-Bretagne, pour le Brexit. Est-ce que tous les candidats dans le monde entier utilisent ça? Et est-ce que ça a pu exister en France au cours des dernières élections?
Ah, ça a existé. Simplement, est-ce que on a eu une coordination aussi fine que celle qui a pu exister, par exemple, pour le Brexit ou, effectivement, pour l'élection de Trump? C'est encore difficile, mais je citais tout à l'heure les fake news. Vous avez une loi qui a été, effectivement, discutée au Parlement ces derniers mois sur les fake news parce que la campagne des présidentielles avait, effectivement, été l'objet de cyberattaques et de tentatives de déstabilisation. Alors, c'était sous d'autres formes. C'était, effectivement, avec des médias russes qui, comme Sputnik, qui, effectivement, diffusait des fake news sur tel ou tel candidat. Par définition, je veux dire, nous ne sommes pas à l'abri. Et donc c'est pour ça qu'il est important, on y revient, il est important d'avoir une attitude critique et une responsabilité critique par rapport aux informations que l'on diffuse, mais aussi et surtout peut-être que l'on lit et que l'on peut parfois intégrer comme étant vraies, alors que parfois elles peuvent être liées justement à des groupes de pression ou à des pays étrangers.
04 95 32 22 22 1 pour nous appeler, pour réagir ou pour témoigner dans notre émission sur la sécurité numérique. Vous pouvez également continuer à m'envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Je voudrais qu'on revienne sur la nouvelle génération, sur la génération de nos enfants qui sont de plus en plus concernés par les objets connectés ou l'internet des objets. Certains jouets, des poupées, des peluches, des robots, des montres ou des consoles électroniques utilisent internet pour transmettre les informations générées par l'enfant lorsqu'il joue. Certains de ces jouets sont également contrôlables par l'intermédiaire de l'ordinateur ou du smartphone des parents, quoi, qui peuvent s'y connecter pour voir les interactions entre l'enfant et le jouet. Est-ce que, quand notre enfant se confie à son jouet, de la même façon que les réseaux sociaux utilisent nos données, est-ce que ces informations peuvent être diffusées à un tiers?
Non seulement elles le peuvent, mais elles le sont la plupart du temps. Alors. Elles le sont la plupart du temps. Je vais citer un exemple qui ne concerne pas les enfants, mais qui concerne effectivement les objets domestiques.
Ah oui. Vous avez ça. Les enceintes connectées.
Les enceintes connectées sont un très bon exemple. On s'est rendu compte que des conversations entières des personnes pouvaient effectivement, et y compris des enfants, parce que souvent les enfants aiment à interagir avec ces objets qui réagissent comme ça, c'est assez.
Ça les fait rire.
Voilà, ça peut, mais ça peut aussi constituer une infraction caractérisée sur la vie privée des personnes. Lorsque des conversations entières, des minutes, voire des heures entières de conversations peuvent être transmises et après rebasculer d'une société à une autre, comme ça a été le cas, et on a vu des scandales récents. Ça, c'est un exemple, effectivement, parce que, vous voyez, l'imaginaire des gens pense que ce n'est qu'un robot, entre guillemets, ou que c'est un ordinateur qui écoute. Non, les sociétés peuvent, et elles l'ont fait, demander à des utilisateurs humains d'aller contrôler ce qui s'est dit pour pouvoir, effectivement, en théorie, améliorer le service, mais parfois avec des risques évidents concernant la vie privée des personnes. Ça, c'est vrai pour les enceintes connectées, c'est aussi pour les montres connectées.
Ah oui.
Mais c'est aussi vrai des objets, des nouveaux objets connectés. Auparavant, nous parlions des aspirateurs, vous savez, les aspirateurs
oui,
robots.
Oui, c'est pour moi, ça
citerai... Non.
Donc, j'ai fait l'acquisition, mais puisque vous parlez de ça, on va en parler. J'ai fait l'acquisition d'un Roomba, c'est une nouvelle... ceux qui connaissent pas, c'est un aspirateur qui est la dernière génération, en fait, qui est connecté et qui est doté d'une caméra et qui est capable de cartographier l'intérieur et de se déplacer de façon méthodique. Alors, ça veut dire qu'après manger, vous pouvez lui dire, tu peux juste aller nettoyer sous la table. Donc, c'est vrai. Alors, quand vous dites ça, vous dites, c'est révolutionnaire. Une fois que vous avez parlé avec Bernard, vous êtes plus du tout à front avec votre aspirateur. La question, c'est, est-ce que, mon aspirateur qui est devenu mon meilleur ami parce que je suis ultra maniaque, est-ce que des personnes mal intentionnées pourrait se connecter à la caméra de mon aspirateur et est-ce qu'il pourrait espionner ce que je fais chez moi?
Alors, la réponse simple est oui. Et pour, voilà. La réponse simple est oui. C'est-à-dire en théorie, et ça c'est une chose importante pour tous ceux qui nous écoutent, en théorie, tout objet qui est connecté à Internet peut, un jour, d'une manière ou d'une autre, être piratable. Il n'y a pas à l'heure actuelle. Et c'est vrai, quels que soient les lieux, c'est-à-dire, c'est vrai depuis effectivement des administrations jusqu'à des grandes entreprises, en passant par des PME, des artisans, ou effectivement des citoyens, il n'y a pas d'objet, d'ordinateur, d'objet connecté qui ne puisse un jour ou l'autre faire l'objet d'attaques. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que l'idée d'une protection absolue, puisqu'on parle de sécurité aujourd'hui, l'idée d'une protection absolue n'existe absolument pas.
C'est donc, ne pas être connecté, en fait.
Absolument.
La sécurité absolue.
Et même, diraient certains, et même. Mais de fait, l'idée, c'est qu'un objet qui est connecté à Internet en permanence est un risque majeur d'intrusion et d'attaque. Parce que chaque adresse, puisque chaque objet a une adresse IP, c'est comme ça qu'on dit, Une adresse sur Internet, peut faire l'objet un jour d'attaque. Et effectivement, en fonction du niveau de sécurité, souvent ces objets connectés domestiques sont peu sécurisés, voire pas sécurisés du tout, et peuvent pas faire l'objet, par exemple, de mise à jour de sécurité. Et donc, par définition, il nous faut être conscient de ça. Et donc, quand on a un objet, vous parliez de cet aspirateur qui peut cartographier ou filmer, par définition, on a déjà eu des sociétés, voyez, de meubles qui achetaient la configuration des appartements telle qu'elle était dessinée par ces robots aspirateurs, de manière à pouvoir voir si la personne avait besoin de tel ou tel meuble et si on pouvait lui envoyer ou pas telle ou telle sollicitation pour acheter tel ou tel objet domestique. Donc par définition, c'était quelque chose que les gens n'avaient absolument pas en tête en achetant ce genre d'appareil. Il faut développer cette conscience que les objets, quand ils sont connectés à Internet, peuvent faire l'objet effectivement d'attaques, de récupération d'informations frauduleuses ou pas, et que ça peut effectivement se retourner contre les personnes. Vous parliez tout à l'heure des risques d'usurpation d'identité, c'est un des risques évidemment, mais il y a aussi le risque d'usage contre la personne des données qui sont recueillies, des données, par exemple dans le domaine de l'assurance, on a eu parfois des utilisations frauduleuses pour que les assureurs puissent, le cas échéant, refuser tel ou tel crédit ou telle ou telle facilité à leurs usagers parce qu'on avait détecté effectivement tel ou tel risque vis-à-vis des personnes. Donc, je crois que là-dessus, c'est vraiment une question d'éducation, de culture, au sens le plus large, du numérique, pour faire en sorte que les gens ne soient pas, je dirais, surpris de ce qui peut être fait à partir des données qu'ils vont effectivement transmettre via ces appareils.
Il faut vraiment être conscient du fait que toutes les données que l'on donne comme ça contribuent à enrichir notre profil publicitaire et bien sûr faire l'objet derrière de malveillance si elles sont détournées à des fins d'escroquerie ou de harcèlement, quoi, parce que ça peut
absolument
être ça le risque. Hein.
C'est l'un des risques majeurs et c'est pour ça que je fais partie, par exemple, des gens qui pensent que ces courtiers en données qui rassemblent des gigantesques bases de données qui sont inconnues du grand public, parce qu'on connaît Facebook, on connaît Google, on ne connaît pas Axiom, Experian, qui sont des sociétés immenses, qui gèrent comme ça des millions et des dizaines, voire des centaines de millions de profits. Et je crois même que ces sociétés devront être très, très, très sévèrement encadrées dans l'avenir, voire même peut-être un jour que leur modèle économique soit remis en cause, parce qu'on considérera que le risque est trop grand et que le profilage massif des populations est un risque trop grand pour nos démocraties. Et donc je pense que c'est vers ça qu'on devra aller. Une réflexion de fond sur l'avenir des grands acteurs de l'Internet, voire même, comme le réclamaient justement les candidats à la présidentielle américaine, démanteler ces sociétés, les séparer en plusieurs, parce que le risque, lorsqu'elles se seront consolidées à l'échelle effectivement de plusieurs milliards d'utilisateurs, ne soit beaucoup trop grand.
Mais est-ce qu'on pourra revenir en arrière? Ça paraît compliqué quand même.
Non. Aujourd'hui, ça semble difficile d'imaginer qu'on puisse fragmenter une société comme Facebook, mais sachez que c'est devenu beaucoup plus qu'une hypothèse. C'est-à-dire que c'est dans le programme politique de plusieurs candidats à la présidentielle américaine. Et donc, que les Européens eux-mêmes se rendent compte que le rapprochement entre Facebook, Instagram et WhatsApp, par exemple, est devenu un danger pour les citoyens européens, le responsable de la concurrence au niveau de la Commission européenne disait « nous nous sommes fait avoir », entre guillemets. Ouais, nous avons été induits en erreur par rapport à ça.
Oui, ok.
Je pense sincèrement que dans le passé, il y a eu des rapprochements d'entreprises qui ont été remis en cause, des fusions qui ont été remises en cause. Je pense sincèrement que ça pourrait se produire pour ces grandes sociétés.
Bah, espérons-le, parce que c'est flippant quand même. Hein. Marjorie nous dit, flippant aussi, hein, j'ai installé des caméras de surveillance chez moi et sur mon application, sans rien chercher, j'ai accès à des images qui ne sont pas les miennes. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir accès aux images de mon intérieur à mon insu? Oui, je pense.
En théorie, oui. Si c'est le cas, ça peut aussi, là encore, faire l'objet de recours, y compris de recours contentieux auprès des autorités, parce que, évidemment, récupérer des informations de votre jardin ou même de votre domicile, comme peuvent le faire certains appareils connectés avec des caméras, si ce n'est pas vous qui y avez accès, ça constitue une infraction évidente. Et donc, oui, c'est toujours le risque. C'est-à-dire que s'il s'agit de sociétés qui ne sont pas localisées en Europe, le risque de dispersion de ces données, au-delà effectivement des acteurs légitimes pour les gérer, est un risque réel.
Donc là, la solution, c'est qu'elle débranche la caméra, on est bien d'accord, hein ?
Au pire, oui, évidemment, ou effectivement faire appel à des sociétés dont on est un peu plus sûr que des sociétés inconnues, mais là encore, il n'y a pas de sécurité pure et parfaite dans ces domaines.
Ça, c'est bon. Alors, je pense que ce sont des caméras. Est-ce que les caméras, ça, ce sont des caméras qui stockent les données dans un cloud ? On est bien d'accord. Mais est-ce que oui. Si on désactive ce stockage des données dans un cloud, on n'est pas protégé non plus ? On est bien d'accord, hein ?
En théorie, un peu plus, parce qu'évidemment, le danger principal, c'est qu'une fois les informations transmises, on ne sache plus où est-ce qu'elles sont envoyées et diffusées. Mais parfois, ces caméras ne fonctionnent que si elles sont connectées et les données envoyées. Donc, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de réponse typique par rapport à ça. Mais l'idée suivant laquelle l'information doit rester auprès de la personne et ne soit pas transmise, c'est une idée essentielle pour l'avenir. C'est-à-dire créer ce que l'on appelle effectivement un cloud personnel, c'est-à-dire une galaxie d'informations qui soit au domicile de la personne et qui ne soit pas transmise au bout du monde, en Chine ou dans d'autres pays. C'est une idée sur laquelle beaucoup de régulateurs se penchent aujourd'hui et beaucoup d'industriels sont en train de se rendre compte qu'à mon idée, ça ne pourra pas être évité dans les temps à venir.
Non, j'en sens plus. Coralie nous dit, si on n'a rien à se reprocher, je vois pas où est le problème. C'est Eric Schmidt, en fait, qui est derrière ce message, c'est pas Coralie. Mais un petit peu, quand même, sur la liberté,
non,
je pense
c'est une phrase dangereuse.
Je pense aussi, je suis désolée, mais oui, je pense aussi
non,
que c'est dangereux.
Non, parce que il n'y a personne qui n'ait de près ou de loin des informations qu'elle ne souhaite pas rendre publiques.
C'est clair.
Donc l'idée suivant laquelle seuls les criminels et les malfaiteurs auraient à craindre de la diffusion de telle ou telle information, c'est une idée qui est fausse et qui a été entretenue. Vous savez, certains disaient, on parlait de Mark Zuckerberg tout à l'heure, il disait la vie privée, enfin et Eric Schmidt aussi de Google, que la vie privée va être amenée à plus ou moins se réduire, voire disparaître. Et que c'est tant mieux. Et non.
Bah c'est pour ça que je dis Eric Schmidt derrière le message parce que ça y ressemble.
C'est une phrase célèbre et qui doit être prise avec d'autant plus de précaution qu'elle vient de quelqu'un qui justement a intérêt à réduire le champ de la vie privée. Et donc qui est jugé parti par rapport à ça. Donc non. Je crois que même la plus honnête des personnes, la plus intègre des personnes doit avoir, et c'est ce que représentent justement les règlements européens dans ces domaines, c'est le droit à conserver le contrôle sur les données.
Voilà,
vous savez, il y a une hypothèse que certains évoquent aujourd'hui de pouvoir vendre et de pouvoir obtenir, entre guillemets, une compensation auprès des GAFA par rapport effectivement aux données que l'on crée. Surtout pas, parce que si on vend ces données, ça veut dire qu'à un moment donné, on perd toute forme de contrôle.
Ben oui.
Et donc surtout pas. Je crois qu'il faut absolument garder le contrôle sur nos données et faire en sorte effectivement qu'elles ne puissent pas être utilisées de façon abusive
contre nous, pour faire pression sur nous, sur notre famille. C'est vraiment important qu'il y ait une législation qui évolue et qui soit en ce sens. Bernard, il reste 2 minutes d'émission.
Oui,
est-ce que vous pouvez nous dire les petites choses que l'on peut faire pour se protéger et utiliser par exemple un navigateur web anonyme, genre Firefox en mode privé ou Brave ou Tor Browser, c'est déjà une solution.
Alors évidemment, les gens les plus consciencieux par rapport à ça peuvent utiliser des navigateurs privés. C'est pas toujours évident, en particulier sur le mobile, c'est plus facile sur l'ordinateur, mais par définition, essayez de ne donner et de ne confier ces données qu'à un nombre restreint d'acteurs. Certains pensent que d'effacer les cookies, vous savez, ces petits...
Ça ne sert strictement à rien, hein, on est bien d'accord.
Ça ne sert pas à grand-chose, il est vrai, mais avoir une gestion plus restrictive des informations, n'utiliser les réseaux sociaux que de manière responsable et de ne surtout pas effectivement être dans une logique où on pense que ce qui est sur votre page Facebook n'apparaît qu'auprès de vos amis, ça c'est faux. Et malheureusement, effectivement, beaucoup de gens n'en ont pas toujours conscience. Donc c'est essayer de réfléchir et effectivement de s'informer sur justement les applications les plus entre guillemets les plus sécurisées en termes de messagerie, ne pas utiliser effectivement des messageries qui peuvent par la suite effectivement vous envoyer toutes sortes de messages publicitaires, des messageries chiffrées, on ne doit pas dire cryptées, des messageries chiffrées. Et effectivement, ne jamais considérer que ce que l'on écrit sur son smartphone, sur son ordinateur, n'est envoyé qu'à un nombre restreint de personnes, ce n'est pas vrai.
Voilà. Donc, sachez qu'il y a quelqu'un au-dessus de votre épaule qui vous regarde, imaginez-vous ça, en fait, hein.
Voilà. Dire que tout ce qu'on écrit, c'est comme si on envoyait une carte postale sans enveloppe. Et cette idée-là, doit déjà effectivement être présente dans l'esprit des gens lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux.
Voilà, donc tout ce que vous postez sur le web, c'est public. Réfléchissez à deux fois avant de connecter un nouvel objet à Internet. Comme ça, vous pourrez vous protéger. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Bernard Benhamou, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour les experts qui sera consacré à un nouveau type d'addiction. Puis pour cause, on est encore dans le thème. La nomophobie, l'addiction au mobile.